se reparle demain. Bye.
Boulevard 102. Collé sur ce qui se passe ici et ailleurs.
The White House confirms the United States is now set to impose a 104% tariff against Chinese goods.
Les enjeux qui te concernent.
Taxe aux choses, c'est la bullshit.
On enlève ça?
On en parle plus tard.
Le but gagnant de la veille.
Cross-ice, Ovechkin fires! Score! Alex Ovechkin is the greatest goal scorer in the history of the NHL.
La nouveauté de Green Day. Le fou rire qui fait ta journée.
Ça déboule les textos!
Boulevard 102.1. Pour du monde de Québec, par du monde de Québec. Une propriété Leclerc Communication.
Salut, bonsoir Québec, bonne soirée électorale à notre antenne, puisqu'à 20h, mon chum Jeff Fortin qui va être là spécialement avec son équipe pour faire une soirée électorale digne de ce nom, sur nos ondes hertziennes sur le 102.1, donc merci d'être là. Moi, ben, mon podcast, bien entendu, qui va suivre dans les prochaines secondes, je vous présente mon invité, et sinon, à partir de 19h, ce sera l'exceptionnel Audrey Pinchot qui va être là avec son podcast Sex Tape, qui va nous faire sortir, on va se le dire, des élections ce soir. Mais parfois, ça fait du bien. Donc, restez à l'écoute. Juste avant, ben, on va regarder ce qui se passe côté météo pour les prochaines heures. Quelques nuages pour ce soir, minimum de plus 3 degrés. Demain mardi, ça devrait être un peu plus nuageux qu'aujourd'hui. 30 % de probabilité d'averse en après-midi avec un maximum de 20 degrés. Mercredi, ce sera ensoleillé avec un maximum de 11. Jeudi, des nuages maximum de 12. Et vendredi, on nous parle de pluie avec un maximum de 9 degrés. Donc, profitons de ce soir et de demain, parce qu'après ça, sinon, on aura peut-être demain. Et après, ben, c'est des nuages. Donc, voilà. Profitons du soleil qu'on nous donne. Voilà. Donc, mon invité de ce soir, c'est l'ex-ministre de la Justice, Maître Marc Bellemare, qui sera avec nous. Bien sûr qu'on va parler d'élections, ça, c'est sûr et certain. Mais on va parler de d'autres dossiers qui touchent l'actualité, les amis. Donc, le podcast qui débute à l'instant. Bonne soirée.
Marceau le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau le soir. Le soir. Le soir.
Maître Marc Bellemare, bonsoir.
Allô, comment ça va?
Ça va bien, mais l'autre bord, ils sont gros. Ils font peur. Qu'est-ce qu'il nous reste, nous autres? On va faire quoi pour gagner le prochain match contre les Capitals de Washington? Vous avez toujours aimé le hockey, vous avez été régulièrement à des matchs du Canadien. Donnez-nous vos conseils. Faites le coach de salon là, qui connaît un peu son hockey, qui a eu des enfants qui ont évolué au hockey pendant des années, Maître Bellemare.
Oui, mais moi, ce que je trouve, au fond, c'est la victoire des épaules. Là. C'est ça qui me choque un peu, c'est que on a l'impression que dans cette ligue-là, là, je regardais aussi les matchs Winnipeg, Toronto. Écoute, ça cogne, c'est du jamais vu. Ça cogne de plus en plus. Au fond, on a l'impression que c'est plus la victoire des épaules sur le talent. Il y a du talent à Montréal, mais Caulfield avec ses 5 pieds 7, puis Suzuki, c'est pas des grands joueurs. Puis Demidov, c'est la même affaire. C'est des petits joueurs, tu sais, par rapport à Ovechkin, par rapport à Wilson. Puis de notre côté, on a Jack Eye, on a Savard, qui sont peut-être des gros bonhommes, mais en même temps, ils sont pas habitués de cogner autant. Fait que là, on rentre dans un autre monde, le monde des épaules, le monde des mises en échec, le monde de la brutalité. Et à ce niveau-là, on est loser à plein, là, écoute, depuis le début. Puis écoute, moi, j'ai l'impression que là, il y a 4 matchs de jouer. Puis tu sais, les séquelles des mises en échec des premiers matchs la semaine passée se font sentir, je suis convaincu. Moi, j'ai vu Caulfield lever les patins à un moment donné là, dans le coin droit de sa zone, je pense, ou de la zone adverse. En tout cas, écoute, c'est sûr que ce gars-là doit avoir des bleus terribles. Si on les voyait tout nus aujourd'hui, je pense qu'on verrait des bleus de la tête aux pieds. Puis ça joue sur le moral à un moment donné. Ils ont peur d'aller dans les coins, ils ont peur d'aller devant le but. Et hier, ce qu'on a vu avec Alexandre Carrier, c'est tout à fait pathétique. Écoute, ils ont décidé, je pense, du côté de Washington, ils ont des stratégies, puis ils ont décidé de s'attaquer à un défenseur. C'est pas par hasard que Ovechkin et Wilson rentrent dedans à plein.
Ben non.
C'est dans le but de le neutraliser pour bousiller la défensive du Canadien.
Exact. Exact.
Et,
Alexandre Carrier
la stratégie
qui.
est claire aujourd'hui et je pense qu'à ce niveau-là, comme on est loser au niveau des épaules, je pense qu'on va être loser dans la série et ce sera pas long.
Oui, Alexandre Carrier qui, dans les derniers jours, était un des défenseurs les plus efficaces chez le Canadien de Montréal. Dans le premier match contre les Caps, c'était clair qu'on visait Caden Goulet. Là, hier, Alexandre Carrier était visé. Ça a commencé par le gros coup d'épaule d'Alexander Ovechkin à la hauteur de la tête d'Alexandre Carrier, mais Ovechkin, là, c'est le 35 heures, hein? Un 240 livres, un 6 pieds quelques, c'est un armoire à glace, puis quand il est arrivé directement sur le côté d'Alexandre Carrier, Alexandre Carrier s'est ramassé dans la bande, puis on pensait que c'était fini pour lui, finalement il est revenu au jeu, mais à partir du moment où Wilson est venu le ramasser par la suite, déjà là, les arbitres auraient dû sonner parce qu'on veut pas, auraient dû siffler, c'est-à-dire on veut pas voir de joueurs commotionnés sur la glace. Donc, il aurait dû avoir un coup de sifflet à ce moment-là parce qu'Alexandre Carrier avait de la misère à se relever, puis le Canadien avait touché à la rondelle. Donc, il aurait dû avoir un coup de sifflet, mais on l'a laissé aller au banc tout bonnement comme ça. Puis c'est clair que c'est une commotion cérébrale, Maître Bellemare. Ils se sont fait brasser, nos petits Canadiens. Puis oui, dans les prochaines années, il faudra grossir le Canadien parce qu'on a des petits joueurs extrêmement talentueux qui nous donnent un bel avenir pour notre Canadien. Puis peut-être qu'en période régulière, on va avoir un beau club pendant 82 matchs, mais rendu en série éliminatoire, on n'a pas une équipe pour aller à la guerre. Puis visiblement, les Caps nous dominent point de vue physique comme pas possible. Puis les arbitres sont beaucoup moins tolérants envers Arber Jacky qui peuvent l'être envers Alexander Ovechkin, exemple, avec sa mise en échec qui, à mes yeux, à moi, quand je regarde la reprise, là, c'est une mise en échec à la tête. Techniquement, il aurait dû avoir une pénalité à ce moment-là, là, un bon 5 minutes. Mais visiblement, les arbitres n'ont pas vu ça de ma façon. Mais les arbitres font partie du jeu. Tu sais, je m'ostine souvent avec mes enfants, là, parce que mes enfants disent tout le temps, les arbitres se sont fait acheter. Puis je dis souvent aux gars que les arbitres font partie du jeu. Ils ont le droit à l'erreur. Les joueurs font des erreurs, les coachs font des erreurs, puis les arbitres ont le droit de faire les erreurs aussi. Mais visiblement, la meilleure des deux équipes hier a gagné, puis les Caps se sont sauvés avec la victoire. Là, le Canadien n'a plus le droit de perdre.
C'est ça. Puis tu sais, la mise en échec de Ovechkin, ça aurait facilement justifié un 5 minutes, à mon avis. Puis ils ont le droit, je pense, aux reprises vidéo, même sur les pénalités maintenant. Hein. Alors, ils auraient pu regarder ça comme il faut. Puis c'est même, je pense qu'au banc, je pense que Martin Saint-Louis demandait un 5 minutes, ça aurait peut-être changé la game. Déjà, à 2 minutes, on a scoré à peu près à 20 secondes au début de la pénalité.
Ouais.
Fini la deuxième période à 2-1. Donc, tous les espoirs étaient permis, mais ça aurait, à mon avis, justifié un 5 minutes. Puis Jacky a pogné un 2 minutes sur une insignifiance. À mon avis, ça n'aurait même pas dû être le cas. Mais écoute, de toute façon, il y a 8 joueurs à Washington qui ont 6 pieds 2 et plus. Ils ont tous à peu près 220 livres et plus. C'est des gros joueurs. Le jour où ils se décident de cogner, c'est comme dans la cour d'école, ça donne que si tu mesures 5 pieds, puis tu en as un 5 pieds 6 en avant de toi, tu vas manger une volée. Et là, c'est ce qui se produit. Les arbitres laissent tout passer. Puis nos Canadiens sont, à mon avis, intimidés et démoralisés. En d'autres termes, tu arrives sur la glace, tu ne sais pas qui c'est qui va te rentrer dedans, tu ne sais pas de quelle manière il va te rentrer dedans. Puis ce qui est arrivé à Alexandre Carrier hier, c'est sûr que c'est un traumatisme d'équipe, là. C'est pas Alexandre Carrier qui a été frappé, c'est toute l'équipe au complet. Parce que quand t'embarques sur la glace, après ça, tu te demandes si c'est Wilson ou Ovechkin qui va te frapper. Puis si c'est pas un de ces deux-là, ça va être un des 6 autres joueurs qui mesurent 6 pieds 2. Et nous autres, on a capitalisé sur des petits joueurs, des joueurs de talent. Puis on n'a pas une équipe de playoff. Alors cette année, on a été dans les playoffs de façon très surprenante. Donc, on n'a pas vu venir ça, mais c'est pas la première fois, Yannick. Je me souviens, moi, il y a 7-8 ans, on disait la même affaire. On avait des Koivu, on avait des Kovalev.
Junta.
qui était Junta, qui était des poteux, puis Gomez, qui était des gars sur qui on misait pour compter des buts, mais il n'allait pas ben devant le but. Puis, mais Pacioretty, qui est un gars solide dans le camp qui était canadien, il ne faisait jamais de mise en échec. C'est pas des frappeux. Alors, Slavinsky... Ce qu'on a aujourd'hui à Montréal, ça frappe pas. Savard, il frappe du mieux qu'il peut, mais du côté défensif. Tu sais, on n'a pas de joueurs solides au niveau des mises en échec. On n'est pas habitué à ça. Puis, à mon avis, c'est la victoire des épaules. C'est ça qui va triompher. Puis mercredi, ben là, à Washington, ça se pourrait que ça marche pour le Canadien, qu'on gagne quand même. Mais s'il décide de frapper à ce niveau-là, c'est évident qu'on n'est pas gagnant.
Comme disait l'autre Maître Bellemare, la dureté du mental. Il reste la dureté du mental, puis on va voir ça mercredi. Maître Bellemare, j'ai des petits sujets qui sont pas toujours le fun à aborder, mais quand même, faut en parler. Sur la route 138, vendredi, est survenu un accident sur l'accotement. Un jeune joueur de hockey de 15 ans qui s'entraînait, qui faisait son jogging, qui malheureusement a été happé à 19h30. Vendredi dernier. Son nom, c'est Félix Nadeau. Il était directement sur la voie d'accotement et il y a un conducteur qui, malheureusement, a dévié de sa route et est allé happer le jeune de 15 ans. Le conducteur, qui est un homme dans la quarantaine, a été arrêté pour conduite dangereuse avec les facultés affaiblies causant la mort et a été libéré par la suite avec citation à comparaître. On n'a toujours pas son nom à l'heure actuelle là, de qui est ce conducteur-là. Mais quelle histoire triste. Un jeune homme qui avait toute sa vie devant lui, croisé la route d'un homme qui, lui, à 40 ans, avait décidé de prendre la boisson avant de prendre la route et il a mis fin au jour de ce jeune garçon-là. Puis je pense à sa famille, je pense à ses frères, sœurs, ses proches, ses collègues d'école, ses collègues de hockey aussi, Maître Bellemare, parce qu'eux, ils jouaient en série aussi. C'est d'une tristesse de tout cœur avec les gens de l'école Zénith, de l'école secondaire Saint-Marc. Ça a été fondé d'ailleurs par l'ex-joueur du Canadien de Montréal, Joey Junot. C'est un drame. Comme on devrait tellement pas avoir à vivre ce type de drame-là, Maître Bellemare.
Oui, puis comme disait son ex-instructeur en fin de semaine dans des entrevues qu'il a accordées, très généreusement d'ailleurs, il faut le remercier pour ça, pour rendre hommage au jeune homme. Il disait, il y a la justice d'un côté qui s'occupe de l'accusé, mais il y a aussi le drame puis la compréhension qu'on doit en tirer, parce que moi, je me dis à chaque fois que ça se produit, d'abord, je ne comprends pas que ce gars-là, même s'il est présumé coupable, soit encore en liberté. J'ai toujours pensé que dans les cas de crimes graves causant la mort, même si tu n'es pas condamné, on devrait les garder en dedans. Question de protéger l'image du système judiciaire, parce que parmi les conditions de remise en liberté, dans le code criminel, c'est prévu que la remise en liberté ne doit pas affecter la crédibilité du système judiciaire. Alors, j'ai toujours pensé que dans des cas entraînant la mort comme ça, on devait garder le gars dedans. Mais là, il est sorti. Alors, grand bien lui fasse, la générosité de notre système judiciaire, encore une fois, de justice criminelle. Mais, écoute, c'est pas normal que ce jeune homme-là ait été frappé comme ça, entraînant la mort, et la conduite dangereuse ou la négligence criminelle, peu importe, qui a causé la mort, doit servir de leçon. Et tu sais que les jeunes de 15 ans, souvent, sont plus ou moins sensibles aux impacts de la vitesse, aux impacts de l'alcool sur la route. La plupart des jeunes qui jouent au hockey avec ce jeune homme-là qui est décédé, vont être des conducteurs automobiles en puissance. Et le seul souhait qu'on puisse avoir, au-delà de la douleur sans nom que la famille doit supporter, les amis, les proches, c'est que ça ait un impact positif de sensibilisation sur les jeunes. Parce que quand tu as 15 ans, en plein cœur de l'adolescence, et que tu es sur le bord d'avoir un permis de conduire, que tu es amateur de vitesse, que tu penses que tu es à l'abri de tous les risques, de toutes les conséquences, et que tu vois ça, bien là, ça cogne. Et si ça peut avoir un impact favorable sur le comportement de ces jeunes-là sur la route éventuellement, en se disant, bien, au nom de mon ami qui est décédé, je vais faire attention, puis je conduirai pas en état d'ébriété, je conduirai pas trop vite, bien, peut-être qu'on va sauver d'autres vies. Et ce décès-là n'aura pas été sans conséquence, sans bienfait d'une certaine façon. Alors, c'est le seul espoir qu'on peut en tirer, parce que pour les familles, ça doit être absolument épouvantable. Moi, j'ai 5 enfants, ils ont tous eu 15 ans à un moment donné. Et je me dis, combien j'aurais été dévasté si ça m'est arrivé. Écoute, ce jeune homme-là n'a pas commis d'erreur. Il faisait du jogging, il posait des gestes positifs pour sa santé. Il s'entraînait en vue d'un tournoi, je pense, ou en vue d'une compétition. Donc, il en faisait plus que ce que le client demandait. Et puis, il a trouvé la mort comme ça subitement. Et on a constaté le décès sur place. Ça veut dire que ça a été un impact d'une immense violence. Et il y a eu aucune chance de s'en tirer, selon toute vraisemblance. Alors, la justice doit être sévère dans ce cas-là et j'espère que la peine va être à la hauteur de la conséquence épouvantable. Et le juge doit tenir compte éventuellement dans la peine de l'exemplarité, de l'impact que ça peut avoir sur la population. Ça en a déjà un sur les jeunes hockeyeurs, certainement, les jeunes adolescents de Portneuf et du Québec, mais ça doit en avoir un aussi pour l'ensemble des conducteurs qui seraient tentés d'avoir le même comportement épouvantable.
Maître Bellemare, l'aide qui va être apportée, là, exemple, parce que là, le jeune s'est fait tuer directement sur la route par un véhicule, la société d'assurance automobile, est-ce qu'elle va aider, est-ce qu'elle va dédommager pour que les gens qui sont touchés par ce triste événement puissent être aidés en psychologie, exemple? C'est quoi
Oui,
l'aide
mais
qui
c'est
est
ça. C'est
apportée?
que la loi sur l'assurance automobile prévoit des indemnités, évidemment, pour le jeune qui est décédé. C'est-à-dire que le jeune est décédé, donc le père et la mère vont pouvoir retirer une indemnité à part égale, qui est un montant global d'à peu près 75 000 piastres de la SAC, à part égale, donc moitié au père, moitié à la mère, et les frais funéraires qui vont être assumés à la hauteur d'à peu près 5 000 $. On ne paye pas la totalité. Et malheureusement, la famille n'a aucun recours contre le conducteur fautif. Comme tu le sais, c'est le no fault au Québec. Alors, tu peux tuer n'importe qui en autant que tu as un char dans les mains et tu vas t'en tirer sans aucune poursuite contre toi. Et même que ce chauffeur-là, si lui a subi des blessures dans l'accident, que ce soit psychologique ou physique, il va être indemnisé sur le même pied que le jeune qui a été tué. Donc, il va être admissible à toutes les prestations, même si c'est lui qui est criminellement responsable, ce qui est une autre aberration. Maintenant, à moins que la famille ou que des proches n'aient été présents sur les lieux de l'événement, parce que si tu as vu l'accident de tes yeux vus, à ce moment-là, tu peux être considéré comme victime au sens de la loi de la SAC, la loi sur l'assurance automobile. Mais si tu es chez vous, dans le confort de ton foyer, ce qui est vraisemblablement le cas, comme père, mère, frère, sœur, au moment où l'impact survient, parce qu'ils ne joguaient pas en groupe, à ce que je sache, à ce moment-là, les proches ne sont pas considérés elles-mêmes comme victimes. Mais la loi leur permet d'obtenir quelques traitements psychologiques sans aucun remplacement de revenus, puis sans aucune indemnité pour les séquelles permanentes rattachées au deuil. Alors, pour être indemnisé à la SAC, il faut que tu sois dans l'accident. Et il y a deux personnes qui sont dans l'accident, c'est le jeune homme de 15 ans, de 1, et le chauffeur qui l'a fauché. C'est les deux seules personnes qui peuvent être qualifiées de victimes. Lui est décédé, donc c'est des indemnités de décès pour le père et la mère, comme je l'ai dit, mais le père et la mère ne sont pas considérés comme des victimes au sens propre avec le remplacement de revenus, les séquelles et tout ce que la loi prévoit, parce qu'ils n'étaient pas présents dans l'accident. Alors, beaucoup de choses à revoir dans cette loi-là, Yannick, parce que le chauffeur a plus de droits au moment où on se parle que les parents, parce que lui était là, puis les parents n'étaient pas là.
Nos ondes hertziennes se rendent dans les secteurs où bon, ça s'est passé. Donc, toutes nos sympathies aux proches qui ont été touchés par ce triste événement. Maître Bellemare, autre triste événement qui s'est passé dans les dernières heures, c'est dans la nuit de samedi à dimanche, plus précisément dans le secteur de Vancouver où il y a une tragédie insensée qui est arrivée. On parle jusqu'à maintenant de 11 morts. Attaque au camion Bélier. Les autorités mentionnent que l'individu n'avait. C'était pas un individu qui était raciste, qui voulait rentrer principalement dans une communauté. C'était un individu qui avait un lourd dossier de problèmes psychologiques et il a commis ce triste événement-là. On a ce genre d'individus-là aussi au Québec, Maître Bellemare, qu'on n'est pas capable de garder dans un hôpital psychiatrique puis qui peuvent être susceptibles de faire ça du jour au lendemain. T'sais, comment ils font pour les laisser sortir, Maître Bellemare, quand il y a une commission? Là, sont autour, ça s'appelle une commission, ils sont autour d'une table, là, ils discutent de la remise en liberté de cet individu-là ou de ce patient-là. Comment ils peuvent juger? Est-ce que cet individu-là est dangereux pour la société? Est-ce que c'est un risque tolérable? Moi, quand on me parle de possibilité de risque, puis on donne quand même la liberté à cet individu-là, à mes yeux, à moi, c'est une catastrophe. S'il représente encore un faible risque, ben, il devrait être en dedans. Pourquoi ces gens-là ne sont pas plus encadrés que ça à la grandeur du Canada?
D'abord, pour pouvoir obliger une personne à subir un traitement psychiatrique puis à être internée dans un hôpital ou dans un centre spécialisé en psychiatrie, il faut que tu aies d'abord une police ou un corps policier qui va t'intercepter, qui va t'obliger à passer un examen médical psychiatrique. En tout cas, au Québec, c'est comme ça. Je ne sais pas comment c'est en Colombie-Britannique, mais ça doit être semblable. Alors, il y a toujours dans notre système de droit une tendance à favoriser la liberté de l'individu. Alors, à chaque fois qu'on veut priver une personne de sa liberté, que ce soit pour des raisons psychiatriques, que ce soit parce qu'il a commis un crime, comme on en a parlé tantôt du monsieur là, qui a tué le jeune homme de 15 ans à Donnacona, puis qui est remis en liberté, à moins d'avoir des soupçons ou des preuves très, très, très claires comme quoi l'individu va commettre un autre crime ou va commettre un crime, on le laisse en liberté. C'est la même chose pour les malades en psychiatrie. Alors, il y a beaucoup de gens qui se promènent sur le trottoir ce soir, Yannick, et qui ont des problèmes psychiatriques, mais dont la famille est incapable d'obtenir une obligation de passer des soins. La famille, les proches, l'individu, les tiers, le public, la police, on n'est pas capable de le rentrer en psychiatrie. Et s'il rentre en psychiatrie, ça va peut-être être pour un examen et il va s'en sortir et il va recouvrir sa liberté assez facilement. Il faut comprendre aussi que les malades, moi je l'ai vu dans plusieurs dossiers, les malades en psychiatrie sont souvent, je ne dis pas toujours, mais souvent de bons manipulateurs. Les suicidaires aussi. Des gens qui vont dire « Ah non, je suis correct, il n'y a pas de problème », puis 2 heures après, il va s'accrocher ou il va commettre un délit. Alors, on a l'impression que la santé mentale, c'est souvent aussi l'imprévisibilité. Des gens qui vont passer à l'acte sans pouvoir naïvement admettre au départ qu'ils ont l'intention de le faire. Alors, c'est extrêmement difficile à juger. Puis ce gars-là qui se promène avec son camion bélier puis qui tue 11 personnes, il n'est pas allé voir la police une demi-heure avant pour dire « Hey, je m'en vais avec mon troc, là, puis je vais aller tuer 11 personnes. » Il a commis son crime. Alors, il faut se prémunir. La seule chose qu'on peut faire, c'est se prémunir. Et pour ça, il faut avoir des conditions de sécurité avec des blocs de ciment puis des voies d'accès qui sont fermées à partir du moment où on a 50, 100, 200 personnes, 500 personnes qui sont dans un événement festif. C'est la responsabilité des corps publics. On sait qu'il y a eu des camions béliers à Munich. Il y en a eu au Québec. Il y en a eu à Toronto. Il y en a eu à Nice il y a une dizaine d'années. Dans tous les cas, c'est une quantité de morts effroyable. Alors, on devrait comprendre aujourd'hui dans les municipalités de la dimension de Vancouver qu'on doit prendre toutes les mesures nécessaires. Puis quand M. le maire nous dit « Bien là, j'ai donné instruction à ce qu'on revise toutes les mesures de sécurité », je ne comprends pas comment on a pu permettre à un camion d'avoir accès à un site où il y avait des centaines de personnes. Et dans ce cas-ci, selon ce qu'on en sait, c'est que on aurait permis à cet individu-là d'accéder au lieu où il y avait des gens. On lui aurait permis d'embarquer là avec son véhicule. Alors, qui a permis est-ce qu'il s'est fait passer pour un fournisseur? Est-ce qu'il dit « moi, je m'en vais porter de la bière, je m'en vais porter des hot dogs », je ne sais pas, là. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui n'a pas marché au niveau de la sécurité. Puis dès qu'un véhicule est en mesure de pénétrer dans une zone fortement habitée, bien là, tout est possible.
L'individu s'appelle Adam Kailido, de ce qu'on comprend. Là. Donc, c'est un individu asiatique. J'ai pas d'informations à savoir si c'était quelqu'un qui avait été reçu au Canada. Si c'était, on me dit, bon, que l'individu est d'origine asiatique, tout simplement. Là. Donc, est-ce que c'est quelqu'un qui était un Canadien ou c'est quelqu'un qui était touriste? J'ai pas encore l'information. Mais bref, souhaitons qu'il ait la sentence qu'il mérite. Jusqu'à maintenant, il y a 11 morts, puis il y a encore des gens qui sont entre la vie et la mort à l'hôpital Maître Bellemare. Il devrait revenir en cours vers la troisième semaine de mai, de ce que je comprends. Est-ce que vous êtes allé voter aujourd'hui ou vous allez le faire ce soir, Maître Bellemare?
Alors moi, je l'ai déjà fait dans le vote provisoire, qu'on appelait autrefois, le vote par anticipation. J'ai toujours voté par anticipation d'aussi loin que je me souvienne. Moi, j'ai voté dans le bureau de Saint-Louis-de-France parce que je suis dans le comté de Louis-Hébert. Et je suis allé là il y a 2 semaines, un dimanche, à 5 heures. J'ai pris une bonne marche de santé de chez moi. Et je suis arrivé là, je te jure, là, je suis rentré. J'ai été 3 minutes peut-être dans le bureau et j'étais tout seul et c'est fantastique. Puis moi, les files d'attente, ça m'écœure. Peu importe les circonstances, Et j'essaie d'éviter les cohues, j'essaie d'éviter les attentes inutiles. Alors, je vote tout le temps par anticipation, mais il y a 75 % des électeurs qui n'ont pas voté par anticipation et qui vont faire la file aujourd'hui, ce qui les exempte pas de leur devoir moral d'aller voter, parce que je pense que oui, il faut aller voter, peu importe le parti que vous allez favoriser. Et je pense que jusqu'à 20 h ce soir, et je pense que la loi permet à tous les employés d'avoir 3 heures pour aller voter, ce qui veut dire 5 heures. Ça veut dire qu'il n'y a pas grand monde qui va bénéficier d'un congé aujourd'hui.
Ouais. Donc, tous les citoyens canadiens peuvent voter. Il faut avoir plus de 18 ans. Il faut être en mesure de prouver son adresse et son identité, bien entendu. Les bureaux sont ouverts depuis ce matin, 9 h 30 jusqu'à 21 h 30. Et il y a une exception pour ce qui est des îles de la Madeleine, bien entendu. Et comme Maître Bellemare vous mentionnait, vous parlez de 5 heures. Là, c'est 3 heures consécutives en dehors de votre horaire de travail. Pendant les heures d'ouverture du bureau de scrutin, votre employeur doit vous permettre de vous absenter sans perte de salaire pour aller voter. Où est-ce qu'on peut voter? Ben là, j'imagine que vous êtes au courant, là. Mais les documents à apporter, c'est la pièce d'identité, un permis de conduire, toute carte délivrée par un gouvernement canadien fédéral, provincial, présentant vos photos, nom, adresse et adresse actuelle. Pour ce qui est de présenter deux pièces d'identité, ça, c'est l'option 2. Donc, ça doit porter votre nom, bien entendu. Au moins, une des deux pièces doit correspondre à votre adresse actuelle. Par exemple, la carte d'assurance maladie, l'avis de cotisation d'impôts, le certificat de naissance, un état de compte bancaire. Et l'option 3, ben, si vous avez des pièces d'identité, il est possible de faire une déclaration par écrit en compagnie de répondants qui vous connaît, qui peut prouver votre adresse et qui est inscrit au même bureau de vote. Allez exercer votre droit de vote, là. T'sais, c'est pas pour rien que les immigrants aiment bien aller voter, c'est qu'eux, ils savent c'est quoi avoir le droit de voter, parce que certains n'ont pas eu ce droit-là, puis certains sont arrivés au Canada et provenaient de fameuses dictatures. Donc, eux, c'est pas pour rien, quand on leur a dit, ici, c'est une démocratie, vous avez le droit de voter, ben ils vont en grand nombre. Ça va être votre idée pour ce soir. Est-ce que ce sera un gouvernement libéral majoritaire, minoritaire? Est-ce que les conservateurs pourraient peut-être causer une surprise?
Ben, on avait l'impression dans la dernière semaine que les sondages indiquaient qu'il y avait un certain rétrécissement de l'écart entre les libéraux de M. Carney et les conservateurs de Pierre Poilievre. Si effectivement les sondages n'ont pas menti, ça voudrait dire que M. Poilievre pourrait aller chercher peut-être un petit peu plus de députés que ce qu'il y avait au moment où la Chambre des communes a été dissoute. Alors, si c'est ça, ça pourrait annoncer un gouvernement minoritaire. On verra bien. Ça dépend aussi de ce que le Bloc québécois va aller chercher. Je pense qu'ils ont 33 comtés actuellement. Alors, selon Canada 338, là, qui nous donne élection 338 Canada, là, qui nous donne un peu les orientations des électeurs, le Bloc s'en tirerait avec un petit peu moins de députés, autour de 25. On verra bien. Moi, ce qui m'intéresse, bien sûr, c'est de un, savoir si M. Carney, qui va fort probablement être élu, va être majoritaire ou minoritaire, mais c'est aussi de voir ce qui va arriver avec le NPD et avec le Bloc québécois. Puis conservateur, bien évidemment, si M. Carney rentre majoritaire, je pense que pour Pierre Poilievre, ça va être très difficile de rester en poste. S'il rentre minoritaire, bien là, ça pourrait avoir un impact différent, parce que ça voudrait dire qu'on pourrait se retrouver peut-être en élection dans un délai d'à peu près 2 ans, à moins que le Bloc québécois, qui détiendrait la balance du pouvoir, ne permette à M. Carney minoritaire de se maintenir en poste, comme le NPD l'a fait avec Trudeau pendant 3 ans. C'est un scénario qui n'est pas impossible aussi. Alors, tout est possible cette fois-ci, mais on a eu une campagne où on n'a pas beaucoup tenu compte, je pense, des enjeux locaux. C'est toujours la menace de M. Trump qui a fait pencher beaucoup d'électeurs du côté de M. Carney, mais écoute, il n'y a pas un premier ministre canadien qui va véritablement être en mesure d'empêcher M. Trump de penser et d'adopter des politiques extrêmement difficiles pour le Canada. La meilleure chose à faire, c'est d'essayer de s'en sortir en développant notre économie, en développant nos richesses naturelles, en ayant à cœur de favoriser des produits québécois et canadiens. C'est la seule chose à faire. Puis dans ce sens-là, les électeurs ont l'air à penser que M. Carney a de meilleures idées que M. Poilievre. Mais dans la région de Québec, particulièrement, qui est un château fort conservateur, ça va être intéressant de suivre aussi dans quelle mesure les conservateurs vont maintenir leur députation. Avec M. Paulus, avec M. Deltel, avec Dominique Vien dans Bellechasse, de voir peut-être, là, on nous dit que dans Montmorency et dans Limoilou-Beauport, il y aurait des possibilités que les conservateurs décrochent des sièges additionnels. Alors, on verra bien dans la région de Québec si la présence conservatrice va être maintenue et même améliorée.
Pour ce qui est de Montréal, on va rester libéral à grandeur?
Pour ce qui est de Montréal, ça ressemble à une députation libérale ou bien Bloc québécois, parce que les conservateurs, je pense bien, ont très peu de chances d'aller chercher des comtés dans la région de Montréal. Il y a dans Mont-Royal, je pense, cet avocat là qui a fait des déclarations il n'y a pas longtemps sur le financement des universités qui encourageait l'antisémitisme, là, selon lui. Lui, ça a l'air qu'il serait peut-être en position de gagner dans la région de Montréal. C'est sûr que si M. Poilievre va chercher un comté dans la région de Montréal, ce serait une bonne chose pour lui parce qu'il y aurait comme un haut-parleur pour aller chercher la grande région métropolitaine. Mais c'est toutes des choses intéressantes là, qu'on va surveiller ce soir. Et évidemment, on n'aura pas tous les résultats ce soir parce que les bureaux de scrutin ferment assez tard, comme tu viens de le mentionner. Et si mon souvenir est fidèle, dans toutes les élections fédérales, on a toujours l'Ouest canadien où il y a un décalage horaire de 3 heures.
Exact.
Où les résultats se font attendre parce qu'on n'a pas les résultats de Colombie-Britannique puis de l'Alberta avant très tard dans la nuit parce qu'eux autres, ils ont 3 heures de plus. Mais c'est pas ça qui va changer le scrutin fondamentalement. Ce qui va déterminer l'élection, c'est bien sûr l'Ontario dans un premier temps, le Québec dans un deuxième temps, et les Maritimes et l'Ouest dans un troisième temps. Mais quand on va savoir ce qui se passe en Ontario, on va avoir une bonne idée de quel gouvernement, avec quelle stature on va avoir demain mardi.
Moi, je viens de la prédiction. Ce soir, vous allez voir à quel point je suis un jojo médium de Wish. Libéral minoritaire. J'y vais avec un libéral minoritaire, donc les conservateurs devraient pouvoir causer une surprise. Donc, j'y vais avec un gouvernement libéral minoritaire. Et oui, le NPD ou encore le Bloc québécois vont contribuer à ce que ce gouvernement-là puisse faire au moins 4 ans, j'en suis persuadé. Les dernières élections, Maître Bellemare, là, j'ai un peu de conspirationniste en moi. Là. La campagne électorale de Jack Meeting est tellement mauvaise que c'est à se demander s'il ne fait pas prêt pour être aussi mauvais pour faire passer Mark Carney tempête. Parce qu'on va se le dire, libéraux et NPD, c'est à peu près le même monde là, qui vote l'un et pour l'autre. Donc, je me suis dit, est-ce que Jack Meade fait par exprès pour être aussi mauvais, pour pas trop gruger d'électorat du côté des libéraux?
Mais quand tu sais que ton parti sera pas à la tête du gouvernement. Tu sais, parce que le bloc, on peut le comprendre parce que c'est provincial. Juste au Québec, ils ont des candidats. Il y en a 78, je crois. Mais le NPD, c'est la grandeur du Canada. Quand tu sais que ton parti ne sera pas à la tête du gouvernement, qu'il ne sera pas premier ministre, ton chef, quand tu sais que tu vas être un éternel second violon, puis le mieux que tu peux aller chercher, c'est l'opposition. C'est un peu décourageant de voter pour un parti quand tu sais que tu ne gagneras pas ton élection nécessairement. Tu vas peut-être gagner ton comté, mais ouais, pas l'ensemble de l'élection. Alors, cette fois-ci, ça joue beaucoup dans la balance. Et effectivement, moi, je connais beaucoup de gens, surtout dans la région de Montréal, des anglophones, des francophones, qui ont voté NPD depuis la vague orange avec M. Layton. Et cette fois-ci, qui vont voter pour le libéral parce qu'ils veulent gagner leur élection puis ils veulent aller chercher un comté libéral là où ils sont. Même des gens qui ont voté pour le NPD dans la dernière élection dans Verdun au fédéral, qui a finalement échoué dans la bassine du Bloc québécois. Alors, ces gens-là vont voter libéral. Alors, ce comté-là pourrait passer aux libéraux cette fois-ci. On verra bien. Mais c'est sûr que voter pour un parti qui est un éternel second violon, c'est pas intéressant, puis c'est ça qui nuit aussi au NPD à l'heure actuelle. Moi, j'ai l'impression que, en tout cas, si c'est un gouvernement minoritaire, ça voudrait dire que les conservateurs auraient plus de votes et plus de comtés, parce qu'ils ont toujours remporté le vote populaire. Je pense bien, même en 2021, je pense que les conservateurs avaient remporté le vote populaire, mais ils n'ont pas remporté le nombre de comtés parce que leur vote est trop éparpillé. Mais je me souviens de l'élection de Donald Trump en novembre dernier. Il avait surpris tout le monde en allant chercher 50 % du vote populaire et il a gagné son élection. Et dans les semaines précédentes, on donnait Kamala Harris comme gagnante. Je ne sais pas si tu te souviens. Et une des explications, c'était que les électeurs de M. Trump étaient plus gênés de dire ouvertement leur vote, même auprès des sondeurs, que les électeurs démocrates. Les électeurs démocrates, c'est « oui, Kamala, Kamala, Kamala ». quand c'est le temps de dire que tu étais pour Trump, ben, tu te gardais une petite gêne, puis tu disais, ben là, je n'ai pas encore tout à fait décidé, ce qui donnait un avantage dans les sondages à Mme Harris. Est-ce que c'est la même chose ici? Possiblement. Parce que de dire, dans le comté de Saint-Hyacinthe ou dans le comté de Rimouski, ou même dans un comté de la région de Montréal, que tu es favorable à Pierre Poilievre, les conservateurs, des fois, ça peut être un petit peu gênant, parce que là, il y a du monde qui va dire « Comment ça? Tu votes pour la droite, tu votes pour les conservateurs, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des votes. » Et ça pourrait être la surprise, ça pourrait faire mentir les sondeurs. Et ça, j'imagine que M. Poilievre est bien au courant, parce qu'il y a eu une campagne très dynamique jusqu'à la dernière minute, avec des rassemblements extrêmement solides, avec des milliers de personnes. Et ça, évidemment, même les libéraux n'ont pas réussi à avoir des rassemblements aussi forts que ça. Mais aujourd'hui, on n'est pas dans les années 60. Des rassemblements dans le sous-sol d'église, dans un garage, ça a moins d'impact. C'est beaucoup les réseaux sociaux qui jouent. Et les gens se fient beaucoup à ce qu'ils voient sur TikTok, sur Facebook. Et il y a plusieurs jeunes personnes qui vont chercher l'ensemble de leur information politique sur ces réseaux sociaux-là.
Maître Bellemare, je vais vous parler de Pierre Fitzgibbon. Avant, on va se rappeler du temps où vous étiez ministre de la Justice. Est-ce que vous aviez eu une genre de formation sur les choses, sur l'éthique, en fait? Quand vous avez envoyé des courriels qui concernent l'État, ça doit être fait avec les adresses courriels de l'État. Puis si vous aviez envoyé des choses personnelles à votre conjointe ou à vos enfants, bien là, vous pouvez utiliser votre propre courriel, exemple sur Yahoo ou encore sur Hotmail, sur Gmail. Est-ce que vous avez eu une formation à l'éthique à ce niveau-là?
Oui, on avait une formation à ce niveau-là. Puis les réseaux sociaux étaient un peu plus embryonnaires qu'aujourd'hui. Moi, j'ai été là en 2003-2004. Alors, c'était pas aussi développé qu'aujourd'hui. Mais on avait, bien sûr, des mesures à respecter pour toute forme de communication. C'est surtout les attachés de presse qui étaient formés pour ça, parce que les ministres, on avait très, très peu d'occasion de partager par courriel, notamment, là, des informations. Mais aujourd'hui, c'est devenu une véritable menace. Alors, j'imagine que les politiciens aujourd'hui sont davantage formés à cause de toutes les menaces et des possibilités d'infiltration puis de sabotage aussi, qui existaient beaucoup moins il y a 20 ans.
Salutations au Journal de Montréal, Journal de Québec, qui ont fait un gros dossier aujourd'hui. Le journaliste Sylvain Larocque. On a révélé que Pierre Fitzgibbon se servait de son courriel Gmail pour des dossiers qui touchaient le gouvernement. On dit que la pratique n'est pas interdite officiellement, mais c'est quand même fortement déconseillé de le faire. Pierre Fitzgibbon, qui a été régulièrement blâmé par la commissaire à l'éthique, Pierre Fitzgibbon, qui nous a coûté des centaines et des centaines de millions de dollars de par ses décisions, Pierre Fitzgibbon, qui était en affaires, puis il ne voulait pas trop dire où est-ce qu'il était en affaires, il y avait tout le temps des zones d'ombre avec Pierre Fitzgibbon. Là, le fait est qu'on nous révèle que le gars utilisait son courriel Gmail pour régler des trucs du gouvernement. Et je salue mon bon ami Steve Waterhouse, qui est un spécialiste de la cybersécurité et du numérique, qui a régulièrement travaillé avec le gouvernement. Et lui, ce qu'il dit, et il n'implique pas Pierre Fitzgibbon dans ce qu'il dit, mais ce qu'il dit, c'est on peut utiliser notre courriel personnel quand on est pour le gouvernement pour cacher des choses, pour pas que si jamais on se fait enquêter, ben que les gens puissent avoir accès à ce courriel-là. Les gens ne peuvent pas avoir accès à ce que j'ai dit ou ce que je me suis fait dire. Par contre, si Pierre Fitzgibbon l'avait fait, dans ce cas-ci, avec son propre courriel du gouvernement, ben là, le courriel du gouvernement appartient au gouvernement, donc on aurait pu retracer ça de cette façon-là. Ça ne dit pas que M. Fitzgibbon est croche, ça dit juste qu'il travaille tout croche, tu sais.
Il s'en fout.
Il s'en fout carrément.
Il s'en fout, parce que je pense que la première chose à faire en politique, quand tu es élu, surtout, même quand tu es candidat, c'est de fermer toutes les adresses que tu as déjà, à mon avis, les adresses personnelles. Alors, c'est sûr, comme moi, j'ai un bureau d'avocat, l'adresse du bureau d'avocat demeure, mais les adresses personnelles, les numéros de téléphone, je pense que c'est au moins quand tu es élu, peut-être pas en campagne électorale, mais au moins quand tu es élu, de tout changer ça pour pouvoir affirmer clairement que tu as une nouvelle vie comme politicien, parce que si tu gardes l'ensemble de tes contacts, de tes réseaux, il y a des gens qui pourraient facilement t'infiltrer, parce qu'il y a des milliers de personnes, des centaines, voire des milliers de personnes qui ont déjà ces adresses-là, qui ont déjà ces téléphones-là, qui ont déjà ces textos-là, qui sont un peu partout sur les réseaux sociaux et qui peuvent facilement t'infiltrer ou t'envoyer des faux messages ou faire, pire encore, faire du sabotage, du vol d'identité, toutes sortes de choses comme ça. c'est pas prudent, mais on le voit même aux États-Unis, l'échange d'informations du secrétaire à la Défense, qui, avec M. Trump, à deux reprises depuis 2 mois, a été pris à transmettre des projets d'invasion militaire au Yémen, puis etc., à des proches. Alors, tu sais, c'est pas juste au Québec qu'il y a un problème, un peu partout il y a un problème. Puis, je pense qu'à la lumière de tout ce qu'on a dans les réseaux sociaux, il faut être doublement vigilant. Et moi, je pense qu'il devrait couper court à toutes les formes de réseaux et d'adresses et de contacts qui existent déjà au moment de l'élection pour pouvoir faire peau neuve et éviter toute forme d'infiltration.
Est-ce qu'il devrait y avoir enquête? Parce que je regarde la citation de Steve Waterhouse, là, qui est un consultant et un ancien sous-ministre associé au ministère de la cybersécurité et du numérique. Lui, il dit « Qu'est-ce qui peut motiver un élu à utiliser son courriel personnel? C'est peut-être pour ne pas laisser de traces dans la machine. Autrement dit, que la conversation, l'information n'apparaisse pas au registre des échanges officiels. Par exemple, un ministre pourrait se servir de sa messagerie personnelle pour amorcer discrètement des discussions avec un investisseur. » Moi, si j'étais François Legault, je sais pas, je demanderais peut-être qu'il y ait une enquête qui soit faite pour que M. Fitzgibbon puisse être blanchi, là. Je veux dire, il n'avait pas à utiliser son Gmail.
Compte tenu qu'il est parti, peut-être que Legault n'a pas trop intérêt à faire de la poussière avec ça. Je pense qu'il va passer une partie de sa semaine à défendre l'idée. Il va envoyer ça à des experts, mais compte tenu que c'est du numérique, etc., c'est compliqué pour bien des gens. Et Fitzgibbon n'est plus là. Alors, moi, j'ai l'impression que ce que M. Legault pourrait faire, qui serait une bonne chose, c'est de s'assurer que dans tous les cabinets, c'est-à-dire les ministres, il y a un expert en numérique qui va s'assurer de tout organiser ça, de faire en sorte que le ministre puisse plus transmettre de l'information sur son courriel personnel, qui puisse changer peut-être ses adresses numériques personnelles et qu'il y a quelqu'un qui s'occupe de ça dans tous les cabinets parce que M. Fitzgibbon n'est pas un expert en informatique, je suis convaincu. C'est certainement un homme d'affaires avisé, mais de ce côté-là, je pense qu'un, il s'en fout et deuxièmement, il n'y a jamais eu de souci particulier de s'assurer que les informations étaient dans un réseau politique sécurisé où il n'y avait pas matière à ébruiter ou à communiquer des informations sensibles. Alors, probablement que ce n'est pas le cas dans tous les cabinets, mais M. Legault pourrait le faire, puis je pense que ça pourrait mettre fin à la polémique, en attendant qu'il y en ait une autre, évidemment.
Maître Marc Bellemare va faire une courte pause. Je rappelle qu'on jase avec l'ex-ministre de la Justice, Maître Marc Bellemare. Ça va être des dossiers de SAC, d'IVAC, de CNESST, puis vous voudriez peut-être y voir plus clair. Allez faire un tour chez bellemareavocat.ca, bellemareavocat.ca. On s'arrête et on revient tout de suite.
Marceau, le soir. Le soir. Rage Against le matin.
Monsieur Claude Villeneuve qui est en studio.
Je vous pose une série de questions. Oh. Ça prend des réponses d'à peu près 15 secondes okay. Maximum. C'est un bon exercice?
Parfait.
Pour un ancien chroniqueur, la taxe au chaud, on fait quoi avec ça?
On la garde pas.
Parfait. La réglementation sur les foyers d'ambiance, on arrête ça en 2030 ou on poursuit?
On donne un break au monde. Moi, je trouve que ça va trop. C'est implanté trop vite, puis on l'explique pas correctement, cette politique-là. Il y a plein de nuances, je pourrais pas les dire en quelques secondes, mais on va trop vite, là. Cool.
Taxe à l'immatriculation, on la garde ou on l'enlève?
Je la réduirai.
Saint-Roch, on lance ça comment?
J'aime Saint-Roch. On soutient les commerces. On développe un quartier latin dans Saint-Roch. On donne un break à Saint-Roch en générant une offre pour les itinérants à l'extérieur du quartier.
Parfait. Qu'est-ce qu'on fait avec les taxes?
Le cadre financier de la ville limite la hausse à l'inflation. Moi, je vais respecter ce cadre financier-là.
Rage Against le matin. Tous les jours en semaine, 6h.
Sinon, vous retrouvez tous nos coups de circuit sur le blvd.fm.
C'est ça.
Salut la gang, c'est François Baudry, chroniqueur web de l'émission Gravel dans le retour. T'aimes mes chroniques? Tu veux en savoir plus sur le monde numérique? Rends-toi sur ma page Facebook et ma chaîne YouTube.
Du 6 au 23 août, c'est le Festival Juste pour rire Québec. Venez voir Mathieu Pepper, Laurent Paquin, P.A. Méthode et plus. Jusqu'au 2 mai en pré-vente, obtenez 20% de rabais sur les galas Juste pour rire. Billets au AAA.com. Festival Juste pour rire en collaboration avec Loto-Québec.
Oui, Michoui International!
Party Noël! Anniversaire, fête de bureau, rassemblement familial.
Michoui International!
En plus, c'est la saison des homards. Ne manquez pas ça. Michoui International. Du plaisir et de la bouffe à volonté.
Bonne fête, ma grande! 10 ans déjà.
C'est parce que j'ai 14 ans, maman.
Elle est bonne.
Ça grandit vite, un enfant. Cotisez à un régime enregistré d'épargne-études de Desjardins dès maintenant.
Salut, moi c'est Sandra, puis ma demande spéciale, c'est Mike chez Rona.
Allô? Tu sais la toune dans la pub de Mike chez Rona? Je veux vous la faire jouer.
Hey, moi pis les gars du chantier, on aimerait bien entendre le hit du printemps. Mike chez Rona.
Quand le printemps arrive, tu te dis, c'est parti. Cette année, on fait le passion.
Cet été, prenez le contrôle avec Enviroconfort grâce à nos thermopompes et climatiseurs de marque reconnue. Enviroconfort a la solution pour votre confort. Obtenez de 300 à 1000 $ de rabais, plus les remises des manufacturiers et les subventions gouvernementales. De plus, cet été, profitez exceptionnellement d'un report de paiement de 3 mois sans frais ni intérêt. Thermopompes, climatiseurs mural ou central, accumulateurs de chaleur et géothermie, plusieurs produits disponibles selon vos besoins. Enviroconfort, le choix du consommateur en chauffage et climatisation. Vous voulez vendre votre maison? SimonLaberge.com. Les courtiers immobiliers numéro 1 au Québec du palmarès Via Capital. Ils ont les connaissances, l'expérience et le réseau de contacts. Vous voulez vraiment vendre votre maison? SimonLaberge.com. Courtier immobilier Via Capital. SimonLaberge.com.
Bonne fête aux organismes. Bonne fête aux bénévoles. Bonne fête, bonne fête. Bonne fête à toute notre communauté. Parce que l'entraide implique tout le monde, le 80e anniversaire de Centraide, c'est aussi le vôtre.
En montant dans une Prius hybride branchable toute neuve, vous pourriez tout d'un coup accepter de conduire des amis à un festival de musique au beau milieu de nulle part. Même si la musique est d'un style dont vous ignoriez totalement l'existence avant ce matin, tout ce qui reste à faire, c'est de la ramener à la maison. Pour découvrir de nouveaux modèles épatants comme la Prius hybride branchable, visitez achetermatoyota.ca ou passez chez votre concessionnaire du Québec et repartez en Toyota.
Vous avez des varices qui vous gênent? Des symptômes de fatigue dans les jambes, d'enflure ou la sensation des jambes lourdes? À la Clinique de phlébologie de Québec, notre équipe de 5 médecins phlébologues peut vous aider. Pour plus d'informations, visitez veines.ca.
Chez Piscine Beauport, c'est le temps de relaxer. Offrez-vous enfin le luxe d'un spa à la maison grâce au rabais exclusif sur plusieurs modèles en magasin. Livraison rapide, offre d'installation, paiement flexible disponible et un service après-vente assuré. Passez-nous voir chez Piscine Beauport.
T'es-tu tanné que ta boîte à lunch te laisse tomber?
Ouais.
Tu veux quelque chose de fraîchement préparé?
Ouais.
As-tu 5,99?
Ouais.
Si t'as répondu,
ouais,
c'est le temps pour un 6 pouces italien BMT ou un poulet teriyaki aux oignons doux fraîchement préparé. Préparer de Subway pour seulement 5,99. Hey, ça t'embauche un coin, ça, hein?
Mm-hmm.
Deux 6 pouces fraîchement préparés pour seulement 5,99 chacun. Subway, c'est frais comme ça. Fraîchement préparé à la commande dans les restaurants participants. Extra taxes et frais de livraison en su.
Ouais!
Du 6 au 23 août, c'est le Festival Juste pour rire Québec. Jusqu'au 2 mai en pré-vente, profitez de 20% de rabais sur les soirées des Grands Bien Cuits, animées par Virginie Fortin, Guillaume Pinot et plus. Billets au AAA.com. Festival Juste pour rire en collaboration avec l'Auto-Québec.
Boulevard 102.1.
De l'actu, du sport, de la circulation, du showbiz. Il se passe de quoi, vous allez le savoir en premier. Il se passe rien, vous allez le savoir aussi.
C'est simple.
Boulevard 102.1, connecté sur ce qui se passe à Québec. Tes sujets, ton rock, ta radio.
Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le Marceau, soir. Le soir. Le soir.
Comme à chaque lundi, on a le plaisir d'être avec l'ex-ministre de la Justice, Maître Marc Bellemare. Maître Bellemare, plusieurs dossiers à jaser avec vous dans les prochaines minutes. On parle d'un dossier qui a été abordé la semaine dernière. Un homme qui est écopé de 21 ans de pénitencier pour avoir complètement détruit la vie d'une propriétaire d'un hôtel en Mauricie. On parle d'une attaque qui était d'une extrême brutalité. Et moi, j'ai vu les photos de cette pauvre dame qui avait été agressé. Maître Bellemare, c'était d'une atrocité et c'est, on reste un peu pantois devant ce genre de gestes-là qui ont été commis à l'égard d'une personne qui était assez âgée, là.
Ouais. Pour savoir, oui, la dame, évidemment, était tenancière d'un établissement, d'un hôtel à Parent, en Mauricie. Et c'est le 3 janvier 2020 que cet individu-là s'est présenté. Il avait, semble-t-il, consommé Mais c'est pas parce que tu consommes et que tu es un peu gorlot que ça donne ouverture nécessairement à ce qu'on appelle la défense de non-responsabilité criminelle. On sait que le code criminel prévoit, que l'article 16, que si tu es incapable de comprendre ce que tu fais, incapable de discerner le bien du mal, à ce moment-là, tu peux être libéré de l'accusation pour cause de santé mentale. Et il y a beaucoup de gens qui pensent que, oh, j'avais pris trois bières, donc je n'étais pas capable de. Non, non, un instant. Même si tu as pris des pilules, même si tu as consommé, même si tu as pris de la drogue, même si tu as fumé des stupéfiants, même si tu as pris des médicaments, ça ne te permet pas nécessairement d'invoquer la non-responsabilité criminelle, parce que la non-responsabilité criminelle, c'est un blackout, c'est une perte de contact avec la réalité et une incapacité de comprendre ce que tu es en train de faire. Ça peut arriver, le cerveau peut être à off pendant un certain temps, mais il faut que tu le prouves de façon prépondérante. Tu n'es pas obligé de le prouver comme accusé de façon hors de tout doute, mais tu dois le prouver de façon prépondérante. Et évidemment, cette fois-ci, M. Patrice Saint-Amans, qui avait consommé, 47 ans, a été accusé de tentative de meurtre avec une violence inouïe. Il faut féliciter le juge Simon Ricard, qui a décidé de condamner cet individu-là à 21 ans. Maintenant, avec la prison préventive, avec tout ça, évidemment, ça peut peut-être changer le nombre d'années qu'il va passer en dedans, mais il faut comprendre que pour la victime qui a failli y passer, parce qu'il y a eu, je pense, plus
21
d'une
coups de poing.
vingtaine de coups.
21 coups de poing. 21 coups de poing au visage d'une femme qui était
C'est ça,
âgée.
c'est ça. On a des photos, effectivement, qui ont été rapportées la semaine dernière. C'est inouï comme violence. Et le juge, je pense, a retenu la bonne peine. Et pour la victime que je représente, soit dit en passant, moi, je m'occupe d'elle parce qu'elle est indemnisée par la CNESST. Depuis l'événement, elle est considérée comme inapte à tout emploi
Mais
pour des
est-ce qu'on
problèmes.
a dit pendant le procès qu'il voulait vraiment la tuer? Parce qu'il a quand même quitté les lieux pour à peu près puis mettre le feu au relais de motoneige. Il a déclenché le feu où le bois de chauffage était entreposé. C'était tout près du dortoir. Le gars voulait mettre fin carrément à la vie de cette femme-là, là.
Oui, c'est sûr, parce qu'on n'est pas obligé d'avoir une admission ou un aveu qui voulait tuer quelqu'un. C'est sûr que s'il dit « je vais te tuer », puis nanana, puis qu'il y a des termes utilisés qui vont dans le sens d'une volonté de tuer la personne, ça améliore la qualité de la preuve, de l'intention. Mais ici, à cause de la durée des agressions, la sévérité des coups, c'était facile de comprendre qu'il y avait une intention de tuer, de mettre fin à la vie de cette dame-là. Et elle a survécu. C'est une femme qui a un discours intelligible aujourd'hui. Je peux y parler, etc. Et elle a des séquelles de nature psychologique parce qu'elle revoit l'événement continuellement, un stress post-traumatique, des éléments dépressifs parce qu'elle est consciente de ses pertes, de sa situation, et un traumatisme crânien aussi qui s'ajoute à ça parce que le cerveau a bougé dans cette affaire-là. Il y a eu un traumatisme crânio-cérébral sévère au moment de l'événement. Donc, la CSST devra verser une compensation pour les séquelles neurologiques qui touchent, bien sûr, l'aspect commotionnel et pour l'aspect psychologique aussi qui s'ajoute. Donc, c'est deux types de blessures. Tu peux avoir une perte de conscience et un trouble commotionnel important sans avoir des troubles psychiatriques. Moi, j'ai des clients qui ont été dans le coma pendant 2 semaines. Ils n'ont aucun problème dépressif. Ils font des jokes de sexe à des inconnus. Ils sont complètement désinhibés et ils n'ont pas de problème psychologique. Il y en a d'autres qui ont eu des traumatismes crâniens très légers, sans séquelles particulières, mais qui ont des troubles psychologiques. Dans ce cas-ci, cette dame-là, elle a les deux. Alors, elle vit des problèmes commotionnels. Elle est consciente qu'elle en a, qu'elle oublie tout, qu'elle doit tout noter, qu'elle a des problèmes visuels, des problèmes auditifs à cause de la commotion. Consciente de ça, évidemment, ça amène une grande détresse au plan psychologique. Donc, il y a les aspects psychiatriques et neurologiques qui sont conjointement affectés.
Comme vous avez dit, ce gars-là, ça fait déjà quelques années qu'il est en prison. Donc, sur sa peine de 21 ans, il lui reste 15 ans à purger en raison de sa détention préventive. Et à sa sortie, il y aura une surveillance en communauté de 10 ans.
Oui, c'est ça. Puis, madame, la victime, a la possibilité de poursuivre cet individu-là. à l'intérieur des 3 ans qui suivent l'événement. Donc, elle avait jusqu'en janvier 2023.